Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film en versus bande-annonce. Thinking how lonesome I've grown, all alone in my room. In my room. Peter von Kant, réalisé par François Ozon avec Isabelle Adjani, Denis Ménochet, Stéphane Crépon, Anna Chigula et Khalid Ben Garbia, et c'est Lila qui va nous le pitcher.
Peter von Kant raconte sans grande originalité l'histoire de Peter von Kant. Réalisateur qui en est dans les années 70 à Cologne. Et va lui être présenté Amir, un jeune homme qui vient de s'installer en Allemagne, dont il va tomber fou amoureux, à qui il va décider de donner un rôle dans un film pour lancer sa carrière. Et puis, 9 mois plus tard, ça se passe plus aussi bien entre eux. Amir a eu son succès, a eu ce qu'il voulait. On n'est pas certain de ses intentions, de sa sincérité, de ce qu'il ressent globalement vis-à-vis de Peter von Kant ou de qui que ce soit d'autre. Il s'en va, Peter a le cœur brisé et c'est à peu près tout hein, ce qui se passe en termes de scénario. On est vraiment sur quelque chose d'un petit peu, j'ai presque envie de dire, une complaisance bourgeoise, total. Le film se vautre un petit peu là-dedans, ce qui le rend assez insupportable au début et puis finalement tu te réalises que enfin, ça donne quelque chose de presque attachant. Et je sais pas à quel point c'est assumé, j'ose espérer que ça l'est. Mais voilà, il y a un côté un petit peu grotesque à tout ça, et qui par rien malgré tout être touchant. Et je pense particulièrement, donc il y a le personnage d'Isabelle Adjani, qui est celle qui lui présente Amir, qui est une actrice, une ex-amie, tu comprends, amante à lui, qui est partie après faire carrière à Hollywood, qui est dans un surjeu absolu. C'est beau. C'est beau ce niveau de minauderie et de c'est vraiment extraordinaire.
Ça rappelle un peu son rôle dans, pour ceux qui l'ont vu, dans Bon Voyage de Jean-Jacques Hano, où elle jouait aussi une espèce de star. Elle jouait Isabelle Adjani, le cliché d'Isabelle Adjani, vraiment la star minaudeuse qui manipule un peu les gens, un peu poseuse. C'est un peu ça, c'est un peu le rôle voisin qu'a 20 ans plus tard de Bon Voyage. Quoi.
C'est ça, c'est tout à fait ça. À ce moment, elle se dispute avec lui et voilà, en fait, à la fois, elle est hyper expressive au niveau des modulations de sa voix, hyper théâtrale, et en même temps, son visage n'exprime rien de ça. C'est juste des sortes de postures, c'est magnifique. Et il y a un moment où on se dispute, où puis elle part en grand drama queen en chantant, je sais plus quoi. C'est vraiment... au début du film, vraiment, c'était insupportable. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et à la fin, je trouvais ça tellement drôle. Ça m'a presque fait penser à Don Juan. Un autre.
Non, c'est pas sympa pour François.
C'est pas un compliment, a priori.
Non, quand même.
Respecte François Ozon un peu plus. Que j'ai même oublié le nom du réel de Don Juan.
C'est un Bozon.
Merci, Bozon. Bozon, je veux dire.
Le mec, il a pris une disquette alors qu'il était même pas là. Quoi.
C'est une petite balle perdue.
Non, mais c'est bon, c'est les mêmes personnes, on a compris. Hein.
Désolé, ça va vraiment faire partie de ma mythologie personnelle avec les traducteurs. Bref, toujours est-il que. J'ai, honnêtement, pas énormément de choses à dire sur Peter von Kant, à part que Ménochet, quand même, grand acteur, toujours.
Alors, en fait, il y a. De manière générale, dans la filmographie de François Ozon, c'est un touche-à-tout, hein. Il est capable de... Il réussit pas toujours, mais il touche à tous les registres, il est capable de faire beaucoup de choses. Et il y a dans sa filmo, il y a une partie de sa filmo où il y a un côté, on va dire, cinéphile référentiel, quoi. Donc, je pense à, par exemple, il y a Potiche, qui était un remake masqué de Tout ce que le ciel permet de Douglas Sirk, quoi. C'est la même histoire, mais dans un contexte franchouillard. Il y avait Franz, qui est pareil, une espèce de remake d'un film de Lubitsch, un film muet de Lubitsch. Il y avait aussi son film Angel, qui est une espèce de remake, parodie de plein de films un peu romanesques, anglo-saxons, un peu à la Autant en emporte le vent, ou des romans un peu à la... À la Jane Austen ou Elisabeth Gaskell, il y a un côté référentiel comme ça, très, très stylisé aussi. Et dans ce corpus-là, il y a une référence aussi qui est celle de Fassbender, Rainer Werner Fassbender. Et vous, il avait déjà fait un premier film en 99 ou 2000 qui s'appelle « Goutte d'eau sur pierre brûlante », où c'était l'adaptation d'une pièce de Fassbender. Et en l'occurrence, là, en fait, pour ce film-là, donc le film s'appelle Peter Van Kant, et en fait, c'est le, il avait, Fassbender avait écrit une pièce qu'il avait adaptée ensuite lui-même au cinéma en 71, qui s'appelait « Les larmes de Petra Van Kant ». Et en fait, c'était exactement la même histoire que Lila vient de vous décrire, sauf que c'était pas dans le milieu du cinéma, c'était dans le milieu de la mode. Donc c'était une femme, une styliste, qui tombait amoureuse d'un modèle, d'un de ses modèles, qui, pareil, qui avait une ascension de carrière qui l'a laissé un peu tomber. Puis cette styliste tombait dans une dépression totale suite à l'abandon de ce modèle. C'était la même histoire. Donc là, osons, il s'est approprié de la masculiniser. Et en plus, il y a encore un côté encore plus référentiel que ça, c'est-à-dire que l'histoire, ce film et cette pièce de Fassbender, en fait, c'était inspiré de sa vraie vie, parce qu'il avait eu un acteur dont il était tombé amoureux à l'époque, qui, pareil, l'avait laissé tomber. Osons a remasculinisé la fiction qui était à la base masculine dans la vraie histoire de Fassbender, en fait, qui a vécu la même chose. Et en fait, il essaie de... Alors, il y a juste un gros problème dans le film, c'est que toutes les autres films que j'ai cités, Potiche, Franz, c'est des films, quand on n'avait pas la référence de base, quand on la connaissait pas, les films fonctionnaient quand même. Potiche, ça peut fonctionner en tant que comédie, un peu mélo-français. Franz, ça marche même si on n'a pas vu le Lubitsch. Alors que là, il y a une grande partie du côté méta qui passe au-dessus de la tête. Bah, les Fassbender... J'en ai vu 3-4, mais ça suffisait pas pour avoir le bagage pour apprécier les sous-couches du film. Et parce que du coup, Denis Ménochet, il joue Fassbender, en gros. D'ailleurs, quand on sait ça, maintenant, on voit le physique qu'il a, l'allure, le look qu'il a dans le film, on comprend que c'est totalement ça. Et d'ailleurs, il y a même une autre référence, c'était dans les années 70, Fassbender avait fait et participé à un documentaire sur l'Allemagne, de manière générale, dans les années 70, où en fait, ils étaient filmés chez lui dans son appartement, et il y avait sa mère qui était là, et puis donc, du coup, il demandait des opinions politiques à sa mère sur son opinion, de manière générale, qu'elle pouvait avoir sur la politique en Allemagne à ce moment-là. Et le décor ressemblait beaucoup au décor qu'il y a dans le film de Ozon, donc c'est inspiré de ça. Et dans l'original, Les larmes de Petra Van Kamp, c'était Anna Chigula qui jouait la styliste, et là, elle joue la mère. Donc elle a connu aussi, elle a fréquenté Fassbinder à l'époque, donc elle a connu la mère aussi de Fassbinder à cette époque, donc il y a un mimétisme, elle essaie de ressembler à la mère de Fassbinder. Donc il y a tout un truc qui peut être assez passionnant, mais en ayant le bagage, sauf que là, voilà, il réussit pas ce qu'il réussissait dans les autres films que j'ai cités, où même en sachant rien, Angel, on pouvait ne jamais avoir vu autant N'emporte le vent, on n'avait jamais avoir lu de littérature un peu romanesque anglaise, ça fonctionnait, on arrivait à être captivé. Franz Paris. Là, voilà, c'est la limite du film.
T'enlèves ça et c'est très anecdotique au final.
Ouais, il y a quelque chose qui n'arrive pas. Oui, c'est anecdotique parce que on n'a pas tous Bac+3 Fassbinder avant d'arriver dans la salle. Et du coup, il y a pas mal de choses qui passent au-dessus. Parce que même moi, j'en ai vu quelques-uns, mais moi, ça m'est passé au-dessus. Ouais. Parce que j'ai pas vu celui qui était le pivot du film, je l'ai pas vu. Donc du coup, ça pouvait pas fonctionner sur moi. Donc il y a le talent des acteurs, il y a une petite émotion qui passe grâce à Denis Ménochet. Par contre, l'acteur qui joue Amir, je trouve assez mauvais. Ça marche. Enfin, au niveau du physique, quand il joue qu'une présence physique des faibles, ça fonctionne parce qu'il est quand même assez beau, il est bien sa personne, donc ça marche, on va dire, au niveau plastique. Mais dès qu'il faut dire deux, trois mots, c'est un peu compliqué, il joue assez mal. Alors qu'à la fin, il y a une émotion qui marche, parce que pareil, il dit rien, c'est-à-dire qu'il passe un dernier coup de fil à Peter Van Kant à la toute fin du film, alors qu'il a déjà réussi. Et c'est le soir de l'anniversaire de Peter Van Kant, donc il lui passe un coup de fil pour savoir s'il peut venir le voir. Et puis là, à ce moment-là, Peter Van Kant a vraiment décidé de faire le deuil de la relation, alors qu'il l'a espéré, cet appel, tout le film. Donc il dit « Non, non, j'ai des choses à faire, ne viens pas. » Alors que c'est quelque chose qu'il a espéré très longtemps, mais là, il décide de couper la branche. Et donc, on a ce personnage d'Amir qui repart, et donc il ne dit pas un mot, mais on voit juste, voilà, la caméra qui filme son visage, où il y a une espèce de mélancolie qui passe dans son visage. Et c'est le seul moment où il y a une émotion un peu qui marche sans qu'il y ait besoin d'avoir toutes les références qui se rattachent au film, là où il y a quelque chose que le film fonctionne de lui-même. Mais c'est un instant, quoi. Sinon, le reste du temps, même si Denis Ménochet, il essaie de jouer ce côté amoureux pathétique, il donne tout ce qu'il a, et il est assez bon, quoi.
C'est dur, mais... quand en face, enfin, je veux dire, t'as... Et puis quand, justement, c'est un film qui est tellement sur le thème de l'hypocrisie, il y a ce moment qui pourrait être assez cathartique, du moment où il pète les plombs devant l'hypocrisie de tout le monde, devant l'hypocrisie de sa de Sidonie, hein, de d'Isabelle Adjani, devant l'hypocrisie de sa mère, etc.
D'ailleurs, même elle est inspirée d'une actrice qui l'a fait monter.
Putain, il devait sacrément la détester.
En fait, tout est référentiel. C'est le problème c'est le problème du film. Quand même, le décor, tout est... Si on aime bien Fassbinder, je suis pas sûr que ça rende le film meilleur, mais ça le rend plus intéressant.
Je dois dire que j'aime, à propos de références, etc., j'aime beaucoup la BO, cela dit, qui est assez chouette. Et du coup, j'ai oublié ce que j'allais dire.
Ouais. Bon, en tout cas, si on aime et on connaît très très bien Fassbinder, on va chercher toutes les références, tous les éléments que j'ai évoqués, on va les chercher sans ça. Que Ozon, il sait le faire, le côté... Je m'appuie sur quelque chose d'existant et en même temps je construis ma propre je creuse mon propre sillon. Il sait très bien le faire là. Bon.
Non, effectivement, c'est pas une très grande réussite de ce côté-là. Après, encore une fois, le film finalement est pas désagréable parce qu'il a ce côté presque vaudeville en fait. Je pousse un peu le truc, mais oui, il y a ce côté presque auto-parodique. Qui vient de ce surjeu de pas mal d'acteurs.
Et puis le côté théâtral, quoi.
Voilà, très très.
La mise en scène aussi qui est assumée.
je c'est pas un compliment que je suis en train de faire au film en essayant. J'essaie de le sauver, mais en fait, je l'en.
Elle essaie de le descendre, de le défendre, et elle le descend.
C'est ça. Mais j'ai trouvé ça quand même. Ben oui, c'est ça. En fait, j'aime bien aussi le côté théâtral assumé. C'est simplement bêtement amusant pour ça. Mais effectivement, il n'y a vraiment pas grand-chose à en retirer. Une ou deux scènes, hein, ou deux dialogues que j'ai trouvé touchants sans être extraordinaire. Mais au final, c'est juste l'histoire de quelqu'un qui déprime parce qu'il s'est fait plaquer.
Voilà. Oui, mais après, Ménochet l'a mis. En plus, il a ce côté...
La mise en scène n'est pas extraordinaire, elle sublime pas du tout le truc.
Mais pour Denis Ménochet, parce qu'elle a ce côté un peu ogre, intimidant, et là, il joue complètement sur la vulnérabilité. Quoi.
C'est ça, ce contraste-là est intéressant.
Quitte à être à la limite du ridicule, mais des fois, on est pathétique, on peut être pathétique quand on est... On est pas bien, on s'est fait jeter, donc... Donc, du coup, c'est avec... Il y a une dichotomie qui je trouve, intéressante, avec son côté ours, ogre, et le côté très vulnérable qu'il a tout au long du film. Je trouve ça assez intéressant, quoi.
Mais je trouve que, moi, ce qui m'avait attiré dans le film, notamment dans la bande-annonce du film, qui a ce côté un peu patchwork d'images très fortes émotionnellement, qui racontent rien, mais voilà, qui sont... Qui fait même plus teaser que trailer, je m'attendais à avoir quelque chose en termes de mise en scène de beaucoup plus fort, et je pense que c'est typiquement une histoire comme ça d'émotion très forte, ça aurait vraiment pu être sublimé par la caméra, par je sais pas, les plans, enfin il y a un ou deux plans qui fonctionnent vraiment bien, notamment un où il va mettre le feu du coup à une photo, parce qu'il y a plein de photos géantes de Amir dans tout l'appartement. À un moment donné, il va mettre le feu à la photo et en fait ça va brûler, tu vois, alors l'œil du personnage vers le, enfin voilà, c'est et pas juste ce passage, mais en fait le plan général dans lequel il est. Il y a deux, trois trucs avec des miroirs, des choses comme ça. On voit qu'il y a de temps en temps des idées de cadre. Mais dans son ensemble, la mise en scène, je sais pas, il y a comme un manque de fluidité. Il y a comme un côté... en fait, on a l'impression d'être sur un plateau de théâtre et c'est dommage parce que... Ça m'énerve quand...
On a réussi à transcender l'influence théâtrale.
C'est ça. Et moi, ça m'énerve quand on critique un film en disant c'est du théâtre filmé, parce que je suis là genre, écoute, c'est très bien le théâtre, mais c'est très cher aussi. Donc moi, je suis contente de voir du théâtre filmé. Ça me dérange pas en soi. Mais c'est vrai que... Enfin, là, j'avais vraiment envie que ça transcende.
Non, mais des fois, il peut avoir un projet de mise en scène où ça rentre en adéquation. Là, après, apparemment, il a produit le film lui-même. Donc il avait peut-être pas les moyens d'un gros producteur pour avoir un décor qui puisse exploiter, on va dire, cinématographiquement.
Tous les moyens sont partis dans la garde-robe d'Isabelle Adjani. Voilà.
et les robes de chambre de Denis Ménochet. Ouais. Si vous connaissez bien Fassbinder,
allez-y.
Ça vous intéressera quand même, je pense, malgré tout, mais sans être complètement réussi.
Merci à vous deux.
La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.